Et le journal est présenté par Aurélie Kiffer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le Parlement européen reconnaît Juan Guaido comme président par intérim légitime du Venezuela. Le chef de l'opposition à Nicolas Maduro présente aujourd'hui son plan pour redresser le pays. Nous irons à Caracas. Les députés européens qui font un petit effort de transparence, ils vont désormais rendre publique leur rencontre avec les lobbies. Alexandre Benalla s'est impliqué dans un contrat de sécurité avec un oligarque russe. Il avait pourtant juré le contraire à la commission d'enquête du Sénat. Révélation de Mediapart et analyse de Stéphane Robert. Les ressortissants français détenus par les Kurdes syriens sont principalement des enfants, souligne Nicole Belloubet. La ministre de la Justice confirme l'option du rapatriement en France. Les partisans de Juan Guaido attendent avec impatience le discours de l'opposant vénézuélien. Le président du Parlement doit s'affirmer face à son adversaire, le président Nicolas Maduro, dont il rejette l'élection. Il s'apprête à proposer des solutions pour sortir le pays de son naufrage économique et social. Olivier Poujade est pour nous sur place à Caracas.
Plus d'un millier d'étudiants, de partisans de l'opposition, une université centrale du Venezuela surchauffée pour entendre les mesures économiques d'urgence de Juan Guaido. Le président par intérim autoproclamé n'a pas encore parlé, mais ses conseillers se succèdent à la tribune et donnent déjà les grandes lignes de ce plan pays. Numéro 1, sortir de l'urgence alimentaire dans laquelle se trouve 48% de la population, instaurer un programme combinant études et nourriture pour la jeunesse vénézuélienne. Deuxième point, une politique fiscale incitant les capitaux étrangers à investir pour relancer un appareil productif au point mort et détruit, selon eux, par le pouvoir en place. Un pouvoir hautement corrompu qu'ils accusent d'avoir détourné l'argent des Vénézuéliens. Juan Guaido devrait annoncer également la création d'un bureau national de récupération de l'argent public, des mesures encore très hypothétiques tant que la situation politique ici restera bloquée et que le contrôle de l'administration restera entre les mains de Nicolas Maduro.
Olivier Poujade avec Laurent Macchietti à la technique. La France reconnaîtra Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela si des élections ne sont pas annoncées d'ici dimanche, déclare Édouard Philippe. Paris reste sur sa position, alors que le Parlement européen, lui, va plus loin. Dans une résolution proposée en commun par les principaux groupes politiques, les eurodéputés ont reconnu l'opposant vénézuélien comme président par intérim légitime de la République bolivarienne du Venezuela et ils apportent leur soutien entier à l'égard de son programme, appelant tous les pays de l'Union à adopter une position ferme et unifiée. Parallèlement, la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a exigé la libération de tous les journalistes détenus sans raison au Venezuela. Les deux journalistes français arrêtés avant-hier, Pierre Caillet et Baptiste Démonstier ont été libérés. Ils seront bientôt de retour à Paris. À 4 mois des élections européennes, les eurodéputés acceptent de rendre publique leur rencontre avec les lobbyistes. La mise en place de ce registre de transparence, recensant plus de 11 000 organisations, a été approuvée avec 496 voix pour, 114 contre et 33 abstentions. Ce texte, défendu par les Verts, est censé garantir une plus grande indépendance des députés européens, Marie-Pierre Véraud.
Oui, et c'est un progrès réel en matière de transparence, mais les conditions du vote ont créé une petite controverse dans l'hémicycle. Écoutez le rapporteur du texte, le député travailliste britannique Richard Corbett.
Beaucoup de gens ont remarqué que le PPE a demandé un vote secret sur ces amendements. C'était un peu le comble, n'est-ce pas? Demander un vote secret sur la transparence. C'est quand même inouï.
Les députés allemands du PPE, le parti conservateur, avaient en effet rassemblé suffisamment de voix pour exiger que le vote sur la modification de cette partie du règlement soit effectué non à main levée, comme ce fut la règle pour les autres points à l'ordre du jour, mais par un vote secret. Impossible ainsi de savoir qui a voté quoi. Le texte est tout de même passé à une assez large majorité. Il instaure donc l'obligation pour les députés européens, qui seront rapporteurs ou présidents de commission, de rendre publiques toutes leurs rencontres et réunions avec les lobbyistes, appelés représentants d'intérêts qui, on le sait, foisonnent à Bruxelles. Ces rencontres seront inscrites sur le site web du Parlement. Obligation de transparence pour les acteurs clés du processus législatif donc, mais simple recommandation pour l'ensemble des députés ordinaires, si l'on peut dire. Avancée modeste, pourrait-on penser, pas tant que cela, assure Richard Corbett.
Bien que c'est pas obligatoire, ça permet quand même une avancée dans la pratique, parce que ceux qui ne le font pas vont être face à des questions du public, des journalistes, des rivaux politiques. Pourquoi vous mettez pas vos réunions dans le domaine public? Et les députés qui refusent de le faire, surtout quand ils deviennent très minoritaires, ça fait quand même de la mauvaise publicité pour eux.
Transparence toujours, les députés sont également invités à rendre publique l'utilisation de leurs frais de mandat. Pas de contrainte là non plus, mais Richard Corbett compte sur la contagion de la vertu. Les travaillistes britanniques avaient, il y a une dizaine d'années, décidé de publier leurs notes de frais. Tous les autres députés leur ont finalement emboîté le pas.
Marie-Pierre Vérot, le rétablissement des sanctions américaines contre l'Iran avec sérieusement compromis les relations commerciales entre Téhéran et l'Union européenne. Mais Paris, Lyon et Berlin ont trouvé la parade. Un canal de communication financière va leur permettre de continuer de commercer avec Téhéran. Leur solution, c'est une sorte de société écran légal qui fonctionne selon un mécanisme sophistiqué, mais finalement proche du troc, Louise Baudet.
Imaginez, Aurélie, une opération pistache contre vaccin. Une entreprise iranienne vend à un client allemand les pistaches. Parallèlement, une entreprise allemande vend à un client iranien les vaccins. Mais attention, aucun argent ne traverse la frontière. La transaction se fait d'un côté en Iran, l'importateur de vaccins paie l'exportateur de pistaches. Et de l'autre côté en Allemagne, l'importateur de pistaches paie l'exportateur de vaccins. But de l'opération, éviter tout flux financier entre les deux pays. Transaction devenue de fait impossible à cause des sanctions américaines contre les banques qui s'y risqueraient. Et l'outil qui offre cette solution de paiement, c'est Instex, une entité enregistrée en France et dirigée par un Allemand. Elle sera opérationnelle dans plusieurs mois, concède le Quai d'Orsay. Le volume des échanges couverts devrait rester modeste. Secteur concerné, l'agroalimentaire, la santé, l'humanitaire. Entreprises visées, les PME et non les géants industriels type Airbus, encore moins les importateurs de pétrole iranien. Insuffisant selon Téhéran, qui salue toutefois une première étape. Et c'est bien là l'essentiel, car le but de l'opération est avant tout politique. Il s'agit pour l'Europe de montrer sa bonne volonté et de prouver à l'Iran que cela vaut la peine de continuer à respecter ses engagements sur le nucléaire. Tout l'enjeu est là, reconnaît le Quai d'Orsay.
Louise Baudet, c'est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Le jeudi, il sèche les cours pour la planète. Quelques 30 000 collégiens et lycéens se sont à nouveau mobilisés aujourd'hui à travers la Belgique pour mettre la pression sur le monde politique et obtenir des avancées en faveur du climat. Le reportage de Pierre Benazé à Bruxelles.
Sauvons la planète, il n'y en a pas d'autre. Agissons aujourd'hui pour demain. Les slogans sont tous dans la même ligne. Les écoliers et les étudiants belges veulent maintenir la mobilisation commencée depuis un mois. Et pour Victor, étudiant en deuxième année d'université, le message doit être martelé toutes les semaines.
C'est pour qu'on arrête de gaspiller le futur et qu'on prenne enfin des décisions pour qu'on ait un futur, justement. Prendre des mesures pour l'écologie, pour notre environnement, parce que l'air de rien, tout se dégrade, tout ce qui est espace vert, etc. Si toute la Belgique, on s'y met, il y a moyen qu'on fasse quelque chose.
Pour Martine, une luxembourgeoise qui étudie pour devenir institutrice, les jeunes ne doivent pas baisser les bras.
Je pense que maintenant c'est le moment pour tout le monde pour venir. Donc faites un changement, maintenant c'est le moment pour agir. Pour les jeunes, c'est vraiment cool que tout le monde vienne maintenant. Je pense bien que maintenant ça commence, que le gouvernement nous voit quoi.
Et tous ces jeunes dans les rues de Bruxelles ont des raisons personnelles de manifester pour la lutte contre le changement climatique et des projets d'avenir comme Lynn qui est en avant-dernière année de secondaire.
Je compte ouvrir en fait mon endroit avec ma ferme, mes chevaux et tout faire moi-même, genre mon potager, mes poules qui me donnent des œufs, tout ça c'est mon projet en fait. Et j'ai pas envie de mourir et j'ai encore envie de vivre longtemps, donc j'y retournerai jeudi prochain et jeudi d'après et encore jeudi d'après.
Même s'ils sont moins nombreux que la dernière fois, les jeunes manifestants reviendront pour un acte 5 à Bruxelles jeudi prochain, d'autant que le mouvement fait tache d'huile, avec aujourd'hui 15 000 autres manifestants en même temps dans les rues de Liège.
Bangkok est dans le brouillard. Depuis un mois, plusieurs solutions ont été tentées pour lutter contre la pollution atmosphérique. Des avions ont déversé des produits chimiques dans les nuages. Des camions ont vaporisé de l'eau dans les rues. Des drones sont aussi intervenus. Peine perdue. Et face à l'impatience des 12 millions d'habitants de la capitale thaïlandaise, le gouverneur de Bangkok ne sait plus quoi faire et il lance un appel à l'aide générale. La justice valide la procédure d'arrêt des soins de Vincent Lambert. Les parents de Vincent Lambert, en état végétatif, sont fermement opposés à sa fin de vie par arrêt des traitements. Ils avaient déposé une requête en urgence pour tenter de suspendre la décision collégiale du CHU de Reims. Requête rejetée donc par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Une étape de plus vers l'arrêt des soins, mais pas encore la fin de cette interminable procédure, Tara Schlegel.
C'est la quatrième fois depuis 2014 qu'une équipe du CHU de Rennes décide
collégialement de mettre fin aux traitements qui maintiennent Vincent Lambert en vie et que cette décision est contestée devant la justice. Ce sont les parents de Vincent Lambert qui s'opposent ici à l'arrêt des soins décidé par le docteur Sanchez. C'est le troisième médecin en charge de leur fils. Leurs avocats estiment aussi que l'expertise médicale menée en septembre dernier est en quelque sorte biaisée, que les trois experts mandatés par la justice n'auraient pas examiné des vidéos montrant que Vincent Lambert n'est pas qu'un corps en souffrance, comme ils disent. Les parents ont aussi présenté une liste de spécialistes prêts à se charger de leur fils. Bref, en urgence, ils avaient donc saisi la justice pour que le docteur Sanchez n'aille pas jusqu'au bout. Or, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejette leur requête aujourd'hui. Il rappelle que l'expertise médicale de 2018 a bien conclu que Vincent Lambert était atteint de lésions encéphaliques irréversibles. Les juges ajoutent que la volonté du malade de ne pas être maintenu en vie dans un état végétatif est établie. C'est là certainement la nouveauté. En conséquence, si Vincent Lambert, comme son épouse, son neveu et d'autres proches en ont souvent témoigné, avait fait savoir qu'il ne souhaitait pas être maintenu artificiellement en vie, le maintien actuel des soins constitue bien une obstination déraisonnable. Voilà pourquoi le médecin, le docteur Sanchez, peut agir désormais, disent en filigrane les juges. Mais vous l'avez noté Aurélie, les parents feront sûrement appel devant le Conseil d'État et probablement la Cour européenne des droits de l'homme. Ces deux juridictions ont déjà tranché une fois en faveur de l'arrêt des soins. Elles pourraient se prononcer assez rapidement. En attendant, Vincent Lambert est en sursis.
Tara Schlegel. Le décès de Georges Sarre, l'ancien secrétaire d'État socialiste avec 83 ans, c'est lui qui avait lancé le permis à points en 1989. Jean-Pierre Chevènement perd un compagnon de route, ils avaient créé ensemble le mouvement des citoyens. Mediapart révèle des enregistrements embarrassants pour Alexandre Benalla. Le site d'information en ligne publie des extraits de conversations entre l'ancien chef adjoint de cabinet de l'Élysée et son ami Vincent Crase, ancien responsable de sécurité d'En Marche. Le 26 juillet, alors que les deux hommes ont interdiction de se rencontrer, Alexandre Benalla se vante auprès de son ami d'avoir le soutien inconditionnel du chef de l'État. Et puis Mediapart publie également des informations sur un contrat passé entre les deux hommes et un oligarque russe soupçonné de lien avec la mafia. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Aurélie.
Ces informations sont en contradiction avec les déclarations d'Alexandre Benalla sous serment devant la commission d'enquête du Sénat.
Oui, on découvre à travers les informations et les extraits de conversations que publie le site internet Mediapart cet après-midi un tout autre Alexandre Benalla que celui qu'on a découvert à travers les auditions réalisées par la commission d'enquête du Sénat. Ce qui étaye le récit de Mediapart, c'est essentiellement un enregistrement entre Alexandre Benalla et son ami Vincent Crase. Enregistrement qui date du 26 juillet, date à laquelle les deux hommes n'ont pas le droit de se rencontrer ni de se parler en vertu d'un contrôle judiciaire auquel ils sont soumis. Et au cours de cette conversation authentifiée, dit Mediapart, l'ex-chef de cabinet adjoint de l'Élysée se vante du soutien indéfectible de celui qu'il appelle le patron, à savoir le président de la République. Écoutez.
Alors, après un truc de dingue, le patron hier soir, il m'envoie un message. Il dit, tu vas aller bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi.
Donc le patron nous soutient ?
Ah bah il fait plus que nous soutenir. Il a dit je me suis senti trahi, j'ai été déçu sur le 1er mai. Ça remet en aucun cas en cause la confiance que je peux lui porter sur machin. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice elle fera son travail.
On entend qu'Alexandre Benalla ne se sent pas du tout en danger ni menacé et qu'il est empreint d'un sentiment d'impunité. Ce qui l'inquiète un peu plus en revanche, ce sont les investigations réalisées autour de la société qu'il aurait montée avec son ami Vincent Crase. Une société qui a été baptisée Mars et sur le compte bancaire de laquelle ont été versés près de 300 000 euros. Cette somme correspond à un contrat passé avec un oligarque russe proche de Vladimir Poutine et soupçonné de lien avec la mafia, Iskander Mahmoudov. Un contrat qui vise à assurer la sécurité dans diverses propriétés immobilières. Benalla explique alors à Crase qu'il ne faut plus que son nom apparaisse dans les statuts de la société.
Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte, ouais. Sur Marc. Ils cherchent tout de toute façon. Donc il faut changer de portage, il faut faire ce qu'on avait prévu de faire il y a 3 semaines. Il faut faire changer le nom, il faut que tu disparaisses de la boîte. Donc il faut qu'on trouve un mec.
Ce qui pose problème si ces enregistrements sont authentifiés, comme l'affirme Mediapart, et qu'Alexandre Benalla, devant la commission d'enquête sénatoriale, avait affirmé ne pas connaître l'oligarque russe en question. S'il a menti, il pourrait avoir à en répondre devant la justice.
Stéphane Robert, Nicole Belloubet le confirme, la France privilégie l'option du rapatriement pour les ressortissants français actuellement détenus par les Kurdes syriens. Mais alors que le député Les Républicains, Pierre-Henri Dumont, souhaite l'élimination ciblée des djihadistes, la ministre de la Justice précise que ce sont surtout des enfants qui se trouvent dans ces camps. Elle parle parle de 75% d'enfants de moins de 7 ans. Marie Bernardo a joint maître Martin Pradel, avocat au barreau de Paris. Il défend des familles dont les petits-enfants sont soit en Irak, soit au Kurdistan syrien. Il dit le soulagement des familles.
Ça va changer la situation de ces enfants. Ces enfants sont en danger de mort depuis des années. Certains sont morts. On périt dans les camps parce que les camps, ce ne sont pas des prisons comme nous les imaginons, ce sont des tentes. En Syrie, l'hiver, il fait froid, l'été, il fait très chaud. Les enfants étaient totalement dénutris. Il y a des enfants qui ne rentreront pas parce qu'ils ont subi cette situation, qu'ils en ont été les victimes, des victimes innocentes. Et c'est vrai que ceux qui pourront rentrer, je crois que leur vie va être sauvée par un choix qui n'est pas un choix d'humanité en quelque sorte, c'est un choix d'opportunité. On décide maintenant que parce qu'on est au pied du mur et parce qu'il y a une raison sécuritaire de le faire, eh bien peut-être on va sauver la vie de ses enfants. Alors,
est-ce que la prise en charge, à votre avis, pardonnez-moi, va suivre justement? Que deviennent-ils? Que peuvent-ils devenir une fois rentrés en France, surtout si leurs parents sont jugés?
Eh bien, ils vont être pris en charge. Ils vont d'abord être pris en charge par les services de l'enfance. Ils vont être évalués, ils vont être aidés. Et très souvent, ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin qu'on les aide à surmonter psychologiquement ce qui s'annonce comme une épreuve. L'épreuve, ils la connaissent tous les jours. Ils vont être aidés. Et puis, pour ceux que j'assiste, ils ont une famille, ils ont des grands-parents qui vont se tenir à disposition pour prendre le relais lorsqu'il sera temps.
L'avocat Martin Pradel, un taux d'occupation de près de 130%, des détenus parfois à 6 dans 11 mètres carrés et des bébés d'à peine quelques semaines en cellule avec leur mère. C'est un aperçu de la situation dans la prison de Rémire Montjoly dans la banlieue de Cayenne. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté demande à l'État de prendre des mesures urgentes pour la prison guyanaise. Une procédure assez rare, Maxime Fayolle.
Et oui, c'est bien simple. En 12 ans d'existence, le contrôleur général des prisons n'a produit que 10 recommandations en urgence, à peine une par an. Mais dans ce cas guyanais, les conditions sont extrêmes. Une surpopulation chronique, vous l'avez dit, une violence incroyable. Imaginez 5 meurtres dans la prison depuis 2011, 122 actes de violence graves signalés entre janvier et septembre 2018. Et encore, les surveillants admettent ne pas tous les dénombrer. Alors, la ministre de la Justice promet d'agir vite sur plusieurs points, mais c'est insuffisant pour la contrôleuse générale des prisons, Adeline Hazan.
Tout ce qui est de l'ordre des conditions d'hébergement, des conditions d'accès aux soins, du fait que les douches se prennent dans la cour dans des conditions absolument d'hygiène absolument épouvantables, la surpopulation, tout cela a abouti à des réponses de la garde des Sceaux qui ne sont pas suffisantes.
Nicole Belloubet insiste sur le fait qu'une nouvelle prison de 500 places va être construite à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, mais les premières études n'ont même pas encore démarré. Les prisons d'outre-mer sont oubliés, dénonce Adeline Hazan.
C'est vrai qu'à chaque fois que nous faisons une visite dans les établissements d'outre-mer, nous constatons des établissements qui vraiment laissent beaucoup, beaucoup à désirer en termes de maintenance, de respect des droits fondamentaux, comme si, parce que l'outre-mer est loin, c'était un petit peu les prisons oubliées de la République.
Elle dénonce aussi un problème de moyens, des surveillants trop peu nombreux, trop souvent en arrêt maladie. Sur ce point, le ministère prévoit 13 arrivées supplémentaires en Guyane, ce sera en mai prochain.
9 syndicats appelaient les retraités à manifester aujourd'hui à Paris où le cortège a rejoint le ministère des Finances. Une délégation devait être reçue par le secrétaire d'État, Olivier Dussopt. Bonsoir Annabelle Grelier.
Bonsoir Aurélie.
Malgré les mesures d'urgence adoptées en décembre, en réponse au mouvement des Gilets jaunes, les retraités se plaignent toujours de voir baisser leur pouvoir d'achat.
Oui, Emmanuel Macron a en effet concédé l'exemption de la hausse de la SCSG pour les retraités, touchant moins de 2000 euros par mois, ce qui fait qu'environ 70% des retraités ne seront plus assujettis à la hausse de cet impôt contre 40% auparavant. Mais pour le moment, la mesure n'est pas perceptible pour les exemptés de 2019 car ils vont continuer à la payer encore les premiers mois de l'année. Le remboursement du trop-perçu, comme on dit à Bercy, ne leur sera versé sur leur pension qu'au mois de mai. Reste que le sentiment général des retraités est de voir leur pension diminuer, baisser. Dans les défilés, tous vous diront qu'ils touchent moins aujourd'hui que lorsqu'ils sont partis à la retraite. En France, contrairement à d'autres pays d'Europe, les pensions n'ont pas été baissées, mais gelées, par exemple de 2014 à 2016. Et donc, n'étant plus indexées sur l'inflation, bien forcément, les prix augmentent quand les pensions stagnent. Et la toute petite revalorisation prévue pour 2019, 0,3%, hein, quand l'inflation, elle, atteint 1,8%, bien ça ne va rien changer. Et la grogne des retraités sera bien difficile à apaiser, car en effet, la grande majorité des retraités continue de perdre du pouvoir d'achat.
Annabelle Grelier. Demain vendredi, le temps sera pluvieux sur le sud-est. Très fort risque d'avalanche dans les Alpes. Et sur la façade ouest, des averses ponctuées d'orages. Il fera 0 à 6 degrés le matin sur la moitié nord, 4 à 10 dans le sud. Les maximales seront comprises entre 5 et 10 degrés du nord-est à la Bretagne, entre 7 et 10 dans le sud. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.